Il y a un peu plus d'une douzaine d'années, je suis arrivé à Toulouse et j'ai créé au sein de l'ICAM une école de production dont je vais expliquer un peu ce dont il s'agit pour des jeunes qui ont 15-18 ans, qui sont en difficulté. Voilà. Et puis maintenant, depuis un an, je suis coordinateur d'un réseau de centres de formation professionnelle qui prend ce type de jeunes et qui met en œuvre la pédagogie jésuite ignatienne. Et puis par ailleurs, je suis le coordinateur de toutes les activités d'apostolat social jésuite en France. Et à ce titre, je suis président du CERAS, qui est le Centre de Recherche et d'Action Sociale et qui édite la revue Projet. Voilà. J'ai mis une petite affiche et vous trouverez des numéros très intéressants à ce sujet dans la librairie. Et bon, je coordonne un certain nombre d'activités jésuites, en particulier l'accueil des réfugiés, la formation professionnelle, les implantations des communautés en quartier populaire. Moi-même, je vis depuis 14 ans à Bagatelle et où j'ai des activités aussi sur le quartier, notamment à la maison de quartier de Bagatelle, dans une régie de quartier, et puis un petit peu sur la paroisse. Je suis aussi, j'accompagne la conférence Saint-Paul Jeune à la paroisse étudiante, voilà, qui font banque alimentaire, visite personnes âgées, etc. Voilà quelques petites activités qui remplissent bien un agenda. Voilà. Alors, donc je vous propose ce matin le thème de notre réflexion, la bienveillance à tout prix, bon, voilà, dans le cadre d'une activité d'accompagnement de jeunes qui sont un peu en déshérence. Effectivement, le problème qui nous préoccupe énormément, c'est que en France, chaque année, il y a 150 000 jeunes qui sortent de l'école sans qualification et sans diplôme. Une classe d'âge, c'est à peu près 700 000 jeunes. Donc, vous voyez la proportion. Donc, ça voudrait dire là, ben, écoutez, je suis désolé, les deux derniers rangs ici et les deux derniers rangs vers là-bas, ben, vous allez devoir quitter la salle. On n'a pas besoin de vous. Voilà. Et vous allez rentrer chez vous, et puis vous allez rester chez vous. On n'a rien à vous donner à faire. Voilà. C'est un peu ça que ça veut dire. Alors, ça paraît arbitraire. Alors, bien sûr, on a comme raison qu'on va pouvoir donner, c'est que vous n'avez pas bien travaillé à l'école. Voilà. C'est pas bien. Voilà. Merci. Au revoir. Voilà. On est mal. On est très, très mal. Et donc, par rapport à ça, eh ben, je vous propose de réfléchir à cette question de la bienveillance vis-à-vis des jeunes. Alors, je vais vous présenter d'abord par un petit film en quoi consiste l'école de production. Ça vous donne un peu quelques images, le terreau à partir duquel je vais essayer d'approcher ce thème. Et ensuite, je vous proposerai cette approche de bienveillance. Donc, j'essaierai de détailler à partir de cette expérience. Et puis, j'essaierai de dire au fur et à mesure un petit peu en quoi une bonne nouvelle peut être expérimentée pour les jeunes et pour la société.
Dynamica est une école de production qui propose une formation en 3 ans pour le BEP MPMI, qui est celui du tournage-fraisage. Dynamica s'attache à former des jeunes pour les besoins de l'industrie.
La question, par rapport à ce qu'on a vu là, l'école tourne depuis maintenant une douzaine d'années, le film date de 2005, on arrive à de très très bons résultats au point de vue, en termes de diplôme et d'insertion professionnelle dans la durée, avec des jeunes, sont des jeunes qui sont envoyés par la PJJ, la protection judiciaire de la jeunesse, les éducateurs des maisons d'enfants à caractère social, les foyers, les éducateurs de prévention spécialisés et aussi des conseillers d'orientation, de mission locale qui font face à des jeunes pour qui le système scolaire traditionnel ne convient pas. Ce que je vous propose maintenant, je vais quand même vous faire un petit peu travailler, un tout petit peu, ce qui permet d'essayer de comprendre un peu ce que vivent ces jeunes pour mieux intégrer les réponses qu'on peut apporter. Et donc je vous propose de prendre simplement 2 minutes et de réfléchir à 4 types de situations, l'une ou l'autre, que vous auriez pu vivre dans votre histoire. La première, c'est une situation d'injustice vécue, une sanction à tort, une chose donnée à un autre alors que vous le méritiez beaucoup plus, hein, du favoritisme, des choses comme ça. Ça. Ou bien, à un moment où vous n'étiez pas sûr d'y arriver, un examen, une nomination, une mission confiée impossible, une situation non préparée. Une troisième situation que vous auriez pu vivre, à un moment où vous avez été rejeté d'un groupe, vous avez eu un groupe contre vous, où tout le monde a râlé contre vous, voilà. Ou une quatrième situation, au moment où vous avez subi de la violence, où vous avez été violent, vous avez été témoin de violence. Voilà, je vous propose d'y réfléchir un tout petit peu et surtout de sentir les sentiments que vous aviez à ce moment-là. Voilà. Ça va nous servir pour comprendre ensuite. Je vous donne deux petites minutes. Ça va nous servir tout à l'heure, quand je viendrai à différents sujets. Donc la question pour moi, c'est comment la société, nous pouvons prendre en compte l'autre, ces jeunes qui sont marginalisés, et je vais essayer de le décliner donc avec le thème de la bienveillance. Première, je propose 7 approches de bienveillance. Première approche, c'est qu'il est risqué de juger sans savoir. On avait un jeune dans l'école, donc je vais souvent prendre des exemples à partir de mon expérience. On avait un jeune qui posait pas mal de difficultés, qui avait été envoyé par la justice, donc qui avait aussi fait quelques petites bêtises. Et quand je le voyais, je me disais, lui, s'il se présente un employeur, présente vraiment pas bien, quoi. Et il, à le voir, j'imaginais toutes les réactions de rejet qu'il peut y avoir et qu'on voit bien aujourd'hui autour de nous. Et puis, bon, on essayait de le faire avancer autant qu'on peut. Et un jour, je rencontre ses éducateurs et qu'il me raconte son histoire. Ce jeune, il avait 5 ans, il était dans une voiture, il y avait son père et son oncle devant, il y a eu un accident de voiture et les deux sont morts devant lui. Alors, évidemment, au moment de l'adolescence, c'est pas trop étonnant qu'il y ait des soucis pour ce jeune et qu'il ait du mal à avancer dans la vie et que, du coup, il y a des choses qui tournent pas tout à fait rond. Voilà. Donc, face à des jeunes qui présentent des difficultés comportementales, et je vais t'amener à en parler un peu là, parce que c'est très vite là où on entre en difficulté avec ces jeunes, et c'est la cause aussi beaucoup du rejet de ces jeunes, ou d'une partie des jeunes dont j'ai parlé tout à l'heure, face à ces jeunes, derrière, on n'imagine pas, mais il y a pas mal de choses. Il peut y avoir du lourd. Voilà. Il y a aussi à prendre en compte des facteurs qui n'aident pas. Alors là, je présente un certain nombre de choses qui ne sont pas suite à une étude sociologique, mais simplement à partir de l'expérience des choses que j'ai pu repérer. Donc ce n'est pas forcément très scientifique. Il y a pour un certain nombre de jeunes le fait que des familles en difficulté soient concentrées dans un même quartier. Et puis aussi pas mal de familles d'origine étrangère où il n'y a pas une maîtrise complète de la culture française. Et donc, on arrive dans des établissements scolaires, un faible niveau des classes, une proportion importante de jeunes qui viennent de l'étranger. Pour ces jeunes dans le quartier, une possibilité assez facile d'être entraînés, éventuellement d'aller vers la délinquance, pas tous, mais un certain nombre. Et donc, évidemment, ça n'aide pas pour arriver à aider un jeune, notamment au moment de l'adolescence, à avancer dans la vie. Il n'y a pas beaucoup d'environnement porteur. L'environnement familial, le réseau de relations de la famille, l'inscription dans la vie professionnelle et sociale est moindre que dans d'autres quartiers et dans d'autres familles. Et puis pour ceux qui sont d'origine étrangère, il y a une identité à trouver qui n'est pas facile. Ce sont des jeunes qui se trouvent à mi-chemin entre deux cultures. La culture d'origine de leurs parents et le pays d'origine, c'est vraiment plus du tout chez eux. Et ils sont bien français, ok, mais ici en France, ils ne se trouvent pas aussi complètement chez eux par la réaction globale de la société. Et il y a bien sûr tous les phénomènes de racisme et de rejet de la société que je vais évoquer plus tard. Il y a aussi une difficulté éducative pour certaines familles, notamment des familles monoparentales. Quand on se retrouve avec un ado qui a 14-15 ans et qui a des difficultés, qui n'est pas bien valorisé, tout ça, il y a des parents qui se trouvent dans l'impossibilité de trouver les moyens, les chemins éducatifs pour ces jeunes, et c'est difficile pour eux. Et puis enfin, le modèle scolaire globale pour l'ensemble de la société n'est pas forcément adaptée à ces situations-là pour ces jeunes, et donc ça provoque des difficultés. Et pourtant, ce sont des jeunes qui valent le coup. Voilà, c'est-à-dire, de l'expérience que j'ai pu avoir, c'est des jeunes qui, dans la galère, ont énormément de courage. Je pense à un jeune qui habitait Jolimont. L'école là était à côté du Zénith, à la Cartoucherie. Et ben, ce jeune, il venait à pied parce qu'il n'y avait pas d'argent à la maison pour payer le métro, quoi. Voilà. Donc, et puis c'est lui qui devait s'occuper de ses frères et sœurs. La mère a quitté le foyer, le père s'en occupait pas. Et bon, là, il faisait tout ça. Et bon, je dis, il faut quand même avoir pas mal de courage pour assumer des situations qui sont lourdes et difficiles, ou des jeunes dont à la maison il y a énormément de violence, et bah, ils viennent quand même. Enfin, ils arrivent à tenir et à faire ce pari d'un investissement sur du long terme, c'est-à-dire sur 2 ans pour avoir un diplôme, pour ensuite avoir un métier, alors qu'au quotidien il n'y a absolument rien d'assuré et la situation est vraiment difficile. Donc, beaucoup de courage, un désir qui a au fond d'eux une réelle attente, elle y est, même si en apparence on pourrait croire que non. Et puis des jeunes pour qui, quand ils arrivent chez nous, ils s'étonnent, mais c'est la première fois qu'on s'intéresse à moi. Donc bon, ça veut dire des choses aussi de leur situation, et ça veut dire l'attente qu'il y a chez eux, quoi. Voilà. Des jeunes qui ont beaucoup d'expression, de créativité, de spontanéité. Je ne sais pas si certains ont vu le film Intouchable. Bon, voilà, le personnage central de ce film est quelqu'un de très attachant. Ben voilà, on a des jeunes comme ça qui ont une expression vraiment formidable. Et puis c'est des jeunes qui ont beaucoup d'intelligence. Seulement, ils ont une intelligence qui est plutôt pratique souvent. Bon, dans notre recrutement, c'est ce qu'on va privilégier évidemment. Et donc dans le système habituel, ben, ça n'a pas marché parce que c'est un système qui marche bien pour des jeunes qui ont une intelligence théorique, mais c'est des jeunes qui ont énormément d'intelligence, mais elle est pratique. Voilà. Donc ce que je voulais dire par là, par cette première approche de bienveillance, c'est que ben, attention au jugement qu'on peut avoir sur les personnes, parce que derrière, il y a plein de choses qu'on ne connaît pas, qu'on ne voit pas, et qui sont à prendre en compte. Ou si on ne les connaît pas, mais de savoir qu'on a une réserve parce qu'il y a plein de choses qu'on ne sait pas, alors que, et qu'en fait, ben, c'est des jeunes qui sont formidables. Deuxième approche de bienveillance, c'est juger l'acte, mais pas la personne. Bon, ça, c'est un principe éducatif de base. Tous ceux qui ont eu des enfants, c'est une évidence. Sauf que ben, quand il s'agit de ces jeunes-là, on a un peu plus de mal. Voilà. À être dans cette attitude éducative de base. Et en fait, les jeunes sont pris, les jeunes et la société sont pris dans une sorte de cercle vicieux, c'est-à-dire pour certains de ces jeunes, ils peuvent avoir des comportements qui sont inadéquats, qui entraînent le rejet de la société, et ces jeunes éprouvant le rejet de la société, du coup, ont des comportements qui sont inadéquats et ainsi de suite. Et on se trouve vraiment dans un cercle vicieux. Et la question, c'est comment briser ce cercle. Voilà. Le comble de ce cercle vicieux, c'est évidemment le racisme ou le rejet de quelqu'un parce qu'il habite tel quartier, par exemple. Voilà. Je peux vraiment témoigner. J'étais il n'y a pas longtemps dans des entretiens de recrutement, des gens très bien, qui ont eu des réactions en disant « Ah non, bah, telle personne, elle est de telle origine, et les gens de cette origine, ils sont plutôt susceptibles, donc il faut faire attention. » Waouh ! Voilà. Carrément. Et on est très, très facilement sur des réflexions comme ça, qui sont hyper graves, quoi. Voilà. Donc, ça, c'est des jugements qui sont sur une personne et non pas sur des choses objectives et précises et qui sont extrêmement meurtrières. Alors, cette attitude de base, elle est à avoir, bien sûr, dans la relation interpersonnelle avec les personnes, mais c'est une attitude de base aussi à avoir au niveau institutionnel, dans l'institution en tant que telle, et aussi au niveau de la société. Alors tout ça, ça n'enlève rien à l'exigence. Et justement, c'est-à-dire que si ça tâche simplement aux actes, on peut être extrêmement exigeant. Et pour ces jeunes, il faut cette exigence. Elle est structurante et elle les aide à avancer. Alors dans notre affaire, on a une exigence professionnelle qui est hyper importante. Et c'est ça qui est intéressant. Les jeunes, on leur demande d'avoir un comportement d'entreprise au sein de l'école. Et avec plein de... Ça suppose énormément de choses. Mais c'est lié à des choses qui ont du sens. C'est-à-dire parce que derrière, il faut servir un client. Donc, il faut se tenir à un certain nombre de règles. Et je me souviens, un jeune qui était arrivé dans notre école depuis peu. Et on lui donne assez vite. Ils sont mis en production sur des pièces pour des clients, tout ça. Et le jeune, il y avait une centaine de pièces à faire. Et il en a... Bon, c'est des pièces pas très très importantes. Quand on donne à un jeune qui démarre, on fait attention quand même. Il en a foiré une cinquantaine. Alors nous, on tire un peu la gueule quand même. Parce que, bon... Alors évidemment, avec des jeunes qui débutent, on va pas lui tomber dessus, c'est normal. Hein, on est organisé de façon à faire face à une situation comme ça. Mais alors, on discute avec le jeune, on lui dit quand même, bon... Il me dit, ben non, il y a pas de problème, moi j'ai 10 sur 20. Voilà, donc il faut arriver à faire rentrer les jeunes dans une autre mentalité et dans une exigence qui est professionnelle, qui est évidemment celle de la qualité qu'on peut avoir dans les entreprises. Mais ça, c'est extrêmement structurant pour des jeunes. Il y a un rapport à la réalité qui va être extrêmement structurant. Un jeune sur une machine, il foire une pièce, il va dire c'est la machine qui marche pas. On va lui faire un grand sourire et puis on va l'amener petit à petit à accepter de refaire sa pièce et ainsi de suite. Et voilà, c'est une exigence qui va s'appuyer sur les atouts du jeune, qui se fait dans un compagnonnage avec des formateurs qui sont des professionnels du métier et qui sont dans une relation non pas bipolaire, mais à trois, c'est-à-dire avec le jeune pour un client. Voilà. Et puis, dans cette exigence, il faut évidemment des règles qui soient claires et bien explicitées. Ben, grâce à cette exigence, on va pouvoir faire avancer les jeunes, mais tout en ayant en essayant d'avoir cette bienveillance qui les fait avancer. Donc c'est une bienveillance, quand je dis une bienveillance à tout prix, c'est une bienveillance à tout prix, mais au cœur d'une exigence. Voilà. Troisième approche de bienveillance, la relation inconditionnelle. Ça, c'est un des points les plus importants de ce que je veux dire. Donc là, je fais rappel au petit exercice que j'ai fait tout à l'heure. Donc vous vous souvenez, pour ceux qui ont pris cette expérience, l'expérience de l'injustice. Voilà. Vous avez beaucoup de jeunes aujourd'hui qui ont ce sentiment d'injustice, un sentiment qui est à fleur de peau. C'est ce qu'ils ressentent, à tort ou à raison, peu importe. Il y a énormément de choses, d'éléments, je vous ai donné, qui peuvent montrer qu'il y a bien sûr une injustice, mais peu importe, c'est ce qu'ils ressentent. Et il faut arriver à sortir de... à dépasser ce sentiment qui est extrêmement pénalisant. Alors vous me direz, c'est habituel chez tous les enfants, on voit bien, depuis toujours, il y a ce souci de la justice, d'équité, tout ça. Mais alors, avec ces jeunes-là, évidemment, c'est beaucoup plus important. Et donc, ce n'est pas tout à fait facile. Et dès qu'on fait le moindre rappel, c'est vécu immédiatement comme quelque chose d'injuste. Et si vous rajoutez à cela le vécu du racisme, qui pour ceux qui sont d'origine étrangère et qui vivent assez régulièrement, évidemment, dans l'acte éducatif, ça va poser problème, puisque dès qu'on fait une remarque, ça peut être tout de suite vécu comme quelque chose de raciste. Donc il faut arriver à sortir de cet enfermement dans le sentiment d'injustice et de rejet. Et c'est des jeunes qui vivent pour beaucoup aujourd'hui entre eux. C'est-à-dire que le réseau de relations de ces jeunes avec des adultes est relativement faible. C'est un trait global de société, notamment avec l'âge de sortie de l'école qui est de plus en plus avancé. Donc ça fait que des adolescents restent entre eux pendant jusqu'à tard en âge avec peu de relations avec des adultes. Donc ça ne favorise pas une intégration dans la société et donc ça favorise une extériorisation et je me situe en dehors de la société et par rapport à la société m'estime lésé et dans une situation d'injustice, je dis encore qui a sa part de vérité et puis qui aussi a sa part de construction. Et c'est des jeunes qui vont vite tester jusqu'au bout. C'est justement, ils ont besoin de sentir est-ce que les personnes qui sont en face d'eux vont continuer à être injustes ou pas. Ils ont besoin de savoir. Le problème, c'est qu'ils vont le tester et assez loin, quoi. Voilà. Donc ça va être la difficulté pour vivre cet axe de relation, cette approche de relation inconditionnelle. Alors, comment on essaie de vivre cette approche ? D'abord, ce qui est important, c'est une relation personnelle avec des adultes et un certain nombre d'adultes. Voilà. Il faut essayer de promouvoir ça dans le lieu où on se retrouve avec les jeunes, et c'est ce qu'on essaye de faire. Un jour, je rencontre... on avait un enseignant qui venait d'un lycée professionnel. Il enseignait dans un lycée professionnel, il nous donnait quelques heures. Et alors, je lui demande... À la fin de l'année, quelle différence tu vois entre notre école de production et le lycée où tu enseignes ? Elle me dit qu'il y a une différence, c'est qu'ici, tout le monde se dit bonjour le matin. Ah, j'étais surpris. Et en fait, bon, nous, on est dans une culture atelier, donc pour ceux qui connaissent cette culture, c'est évident que le matin, on va serrer la pince à tout le monde dans l'atelier. Et alors, lui, il me disait, dans mon lycée, il n'y a pas d'échange de bonjour personnel entre l'enseignant et les jeunes. C'est un bonjour global dans une classe, éventuellement. Voire dans un couloir, un jour, un élève peut dire bonjour à un prof, et encore, ça peut être mal vu par les autres élèves et tout ça. Bon. C'est une situation que lui expérimentait. Et donc, là, ça m'a fait prendre conscience de l'importance, justement, de cette relation personnelle avec chaque élève et les adultes. Et c'est ça qui va aider à bâtir cette relation de bienveillance. Il faut que les jeunes ne soient pas un dans la masse, mais qu'ils soient pris en compte individuellement. Ensuite, on a aussi une équipe qui est en permanence dans l'école. Donc ça fait qu'à tout moment, les jeunes peuvent se référer aux personnes, à leurs enseignants. Tous les enseignants d'atelier sont en permanence dans l'école et il y a une relation très forte avec de compagnonnage, comme je disais tout à l'heure. Ça, c'est très important. Et puis, on a aussi des bénévoles. Là aussi, ça crée un type de relation différent. C'est-à-dire, des jeunes vont tout d'un coup prendre conscience que, il y a des personnes qui viennent là gratuitement pour eux. Et alors, ils se disent, ah, mais c'est que je vaux quelque chose, alors, s'ils vont gratuitement. C'est pas uniquement pour avoir leur salaire, c'est... voilà. Et ça, c'est extrêmement intéressant dans la promotion d'une relation de bienveillance. On arrive ainsi à créer une ambiance où les jeunes, souvent, nous disaient, c'est un peu une seconde famille pour moi. Pour permettre cette relation inconditionnelle, il faut un cadre tenu par des adultes cohérents. Voilà. Alors, il faut un système de règles qui soient simples et claires, du genre ne pas mettre la casquette en cours, enfin des petites histoires comme ça, et qui bien sûr vont être très vite transgressées, mais c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que si c'est pris en charge et bien traité, et bien, du coup, ça permet aux jeunes de se frotter et nous de tenir et d'être une certaine butée sur laquelle les jeunes vont pouvoir ensuite s'appuyer. Voilà. Ensuite, il faut les moyens pour faire tenir ces règles, donc tout un ensemble, je dirais, de sanctions éducatives qui permet aux jeunes de prendre conscience de la transgression d'une règle et ensuite d'être amené de plus en plus à les respecter. Et puis, il faut une cohérence d'équipe, c'est-à-dire que les adultes, sur une affaire comme ça, soient sans très très grande cohérence, pour que les jeunes puissent s'y retrouver. C'est le problème de notre société aujourd'hui, hein, c'est qu'il y a une forte incohérence des adultes, d'une manière générale, et donc les jeunes ne s'y repèrent pas du tout. On les met en difficulté. Puis une cohérence de projet, c'est-à-dire d'être bien clair sur le projet de l'école. On avait 2 heures de réunion par semaine pour se mettre en cohérence sur l'attitude éducative à avoir avec les jeunes. Ensuite, ce qui est difficile pour les adultes dans cette affaire-là, c'est que on doit accepter d'avoir des règles du jeu inégales. Dans le sens, un jeune peut poser vraiment difficulté dans l'école et peut avoir des comportements à un moment qui vont dépasser l'acceptable. Et l'adulte, évidemment, ne doit pas répondre sur le même registre. Voilà. Et donc ça, c'est pas évident aussi à tenir. C'est-à-dire qu'on doit supporter des transgressions qui peuvent être assez importantes et tenir, bien sûr, avoir une réponse adéquate, mais certainement pas dans le même registre que le jeune. Voilà. Ça demande beaucoup de patience. Il y a bien des fois où on se disait, bon, ben, on comptait les semaines avec lesquelles on arrivait à faire tenir un jeune, à le faire avancer. Et on se dit, bon, allez, il faut qu'il tienne jusqu'aux prochaines vacances, qu'il tienne jusqu'à l'examen, qu'il tienne, voilà. Et puis, ben, chaque semaine, c'est une semaine de gagner. Et puis, le temps fait son œuvre et on arrive à avancer avec un jeune. Ça demande aussi du réalisme, c'est-à-dire faut savoir le moment où on peut vraiment plus, ça met trop en danger les autres jeunes ou l'équilibre de l'école, et donc du discernement. Mais ça, le discernement, c'est-à-dire à un moment donné de savoir quand est-ce qu'on peut plus vis-à-vis d'un jeune. Alors c'est un problème parce que je suis bien dans l'approche de dire une relation inconditionnelle. Donc c'est un moment toujours difficile quand avec un jeune, vraiment on est au bout, parce que ça met en défaut notre projet, qui est de dire d'accueillir vraiment le jeune jusqu'au bout, mais il y a un moment où, par réalisme, on peut dire il y a trop de violence, ou un caïd qui a pris la main sur toute l'école, bon, à un moment donné, il faut faire quelque chose, enfin, des choses comme ça. Bon. Mais ça demande du discernement. Et ça, c'est le problème de tout établissement scolaire, ou, voilà, c'est-à-dire, c'est où qu'on pose la limite, quels sont les moyens qu'on met en œuvre pour... permettre aux jeunes d'aller assez loin, d'avoir le temps de comprendre les règles et de s'inscrire, et puis finalement d'éprouver ce que je disais tout à l'heure, cette butée, parce que c'est ça dont ils ont besoin, c'est-à-dire jusqu'où on est prêt à aller avec eux malgré certaines choses qui vont pas et qui sont pas forcément de leur fait, qui sont conséquences de toute une histoire. Mais voilà, donc ça demande énormément de discernement et de moyens pour permettre ce côté inconditionnel le plus loin possible. Et puis, c'est pas facile à gérer aussi, puisque si on fait appliquer des règles avec la même manière de réagir pour tout le monde, très vite, on a la moitié de l'école qui se retrouve en dehors, quoi. Donc, il faut s'adapter à chaque jeune et à gérer le sentiment difficile à vivre pour les autres, de voir une des manières de réaction, de réagir qui sont différenciées selon les jeunes. Ça demande aussi de l'écoute. C'est important d'avoir des lieux différenciés. D'écoute, c'est-à-dire des lieux différenciés d'exigence. C'est-à-dire, il faut que des lieux où des jeunes peuvent dire des choses qui devant un directeur, demanderaient immédiatement une réaction. Voilà. Non, là, il faut que ce soit un lieu de parole libre et où les jeunes puissent exprimer un certain nombre de choses. Alors, on faisait comme ça des séances de relaxation éducative, des choses comme ça, où la parole est vraiment très, très libre et où les jeunes vont pouvoir s'exprimer sur des choses qu'on ne peut pas dire dans d'autres environnements. Et puis, de la confiance. Ce qui est très important, c'est-à-dire quand on dit une relation inconditionnelle, il faut aussi, à un moment donné, donner une responsabilité, mettre entre les mains des jeunes un certain nombre de choses. Et alors là, dans ce cas de figure, dans ce type d'école de production, c'est très intéressant parce que là, on met dans les mains des jeunes une machine qui vaut très cher, des commandes clients pour des machines spéciales, le métro, un peu l'aéronautique, bon, donc avec une responsabilité de servir un client en heure dans la qualité. Et du coup, alors là, en faisant confiance, c'est là que se jouent les choses et que se bâtit la relation et dans cette approche inconditionnelle. C'est vraiment très très important cet aspect-là d'un inconditionnel, c'est d'ailleurs d'avoir une relation avec un jeune où on n'est pas tout de suite sur des conditions impossibles à tenir. C'est vraiment très très important et c'est à vivre d'un point de vue personnel, c'est-à-dire dans la relation individuelle au jour le jour, tout ça, et évidemment au niveau institutionnel. Et derrière l'institution se représente finalement le monde des adultes et la société. Par rapport à ça, pour la société, c'est un point qui est important, qui a une, je dirais, un peu une incidence politique. Je fais référence à quelque chose, je ne me situe pas du tout au niveau politicard, des choses comme ça, mais qui, pour moi, j'utilise ça pour faire comprendre ce que je veux dire. C'est-à-dire, quelqu'un responsable à stature nationale va traiter les jeunes de racaille, ça c'est très très grave. C'est-à-dire, c'est la société qui condamne et juge les personnes et du coup est à l'opposé de ce que j'essaye de dire là, c'est-à-dire la bienveillance. C'est-à-dire qu'une société doit avoir nécessairement un a priori de bienveillance pour toute personne, tout membre de la société. Après, bien sûr, il y a tout ce qui est mis en place sur un acte est posé, il y a la justice, on traite cet acte et tout ça. Mais on peut pas, et une société ne peut pas rejeter ces jeunes de cette manière-là. Quoi. Voilà. Ça, c'est très important. Je dis bien, je me situe en dehors du contexte politique dans lequel ça a pu être utilisé, tout ça, tout ce qu'on veut. Quoi. Et finalement, si on arrive à avancer et à entrer dans cette approche de bienveillance inconditionnelle, eh bien finalement, c'est une énorme bonne nouvelle pour les jeunes. C'est-à-dire, eh bien, je peux être pris en compte pour moi-même, malgré ce que je suis ou avec toutes les limites que j'ai et avec la richesse que j'ai, je suis pris pour moi-même. Voilà. Et ça, c'est une énorme bonne nouvelle. Et c'est une bonne nouvelle pour la société aussi, c'est-à-dire, finalement, ces jeunes, ils valent vraiment quelque chose, on leur donne vraiment une place, et on est capable de leur donner une place et de vivre avec eux, et ils ont quelque chose à nous apporter, vraiment. Les jeunes que j'ai eus dans cette école, il y a pas mal de jeunes aujourd'hui, c'est eux qui font notre chiffre à l'exportation. S'il vous plaît. Voilà. Vous en avez qui travaillent pour des pièces de Cameroun, pour les puits de pétrole, là, pour les vannes qui ferment les puits de pétrole. Il y en a qui travaillent bien sûr pour Airbus, en quantité importante, sur des pièces très techniques. Enfin, des jeunes qui sont des ouvriers hautement qualifiés, dont les entreprises, ils ont du mal à en trouver. Voilà. Ils contribuent, quoi. Je veux dire, c'est vrai que la société arrive à changer son regard sur ces jeunes et arrive vraiment à avoir cette relation avec elles et croire en eux. Voilà. En tout cas, c'est une bonne nouvelle que je vous annonce. Voilà. Quatrième approche de bienveillance, c'est la gratuité. Donc, je suis en relation avec telle personne, je suis en relation parce que c'est elle. Voilà. Et simplement pour le plaisir et de la relation et pour la relation humaine en tant que telle. Et non pas dans l'attente d'un retour. Alors tout à l'heure j'ai parlé de l'inconditionnalité d'un point de vue des règles et tout ça, de ce qu'on pourrait poser comme condition aux personnes, mais aussi en tant que personne, on n'est pas à la recherche d'un retour, d'une gratification et tout ça. Ce qui nous intéresse, c'est que la personne dans la relation s'épanouisse pour elle, voilà, et on est en relation finalement pour elle. Et finalement, même, je dirais, au bout d'un moment, il est important de ne pas être en relation pour qu'il réussisse, pour qu'il avance, pour tout ça. Non, je suis en relation avec les personnes, simplement pour la relation qu'on a à vivre ensemble. À travers ça, bien sûr, j'essaie de contribuer à ce qu'il avance, mais je ne suis pas attaché et suspendu à l'avancée de la personne qui est devant moi. Ça, c'est une structure fondamentale du lien social. Étienne Grieux, qui a écrit là, ce livre « Un lien si fort », que vous trouverez à la librairie, très intéressant, notamment les premiers chapitres, exprime bien cet aspect-là, c'est-à-dire que on est dans une société où de plus en plus on est dans des relations contractuelles. Voilà, tu me donnes ça, moi je te donne ça, et voilà. Et une personne, elle est intéressante que si elle peut m'apporter quelque chose, sinon aucun intérêt. Voilà. Mais en fait, ça, c'est pas. Bien sûr, c'est important qu'il y ait ce type de relation. Mais ce qui constitue une société, c'est les relations inconditionnelles. Et évidemment, la relation dans la famille, la relation... Quand une société prend des jeunes à l'école, c'est complètement inconditionnel d'une certaine manière. C'est-à-dire, c'est pour ces jeunes, pour qu'ils grandissent, mais on n'attend pas en retour immédiatement quelque chose sous forme d'un contrat. Voilà. La gratuité, c'est la quatrième approche de bienveillance. Cinquième approche, la fraternité. Ce qui m'a souvent surpris, et agréablement, enfin, c'est une expérience très belle, c'est que les jeunes que j'avais dans mon bureau, alors bon, assez fréquemment, soit pour encourager, soit quand il y avait quelque chose qui n'allait pas, j'ai trouvé que dans le dialogue avec ces jeunes, il y a vraiment, on arrive très vite en vérité. Ces jeunes sont sans phare. On est tout de suite au fond des choses, sur des choses de très profondes, toutes simples, hein, mais très très profondes, et dans vraiment une simplicité de relation. Voilà. Et pour moi, ça a été un vrai bonheur de vivre ça. Et avec eux, mon rôle n'était certainement pas de leur faire la morale en disant « faut faire ci, faut faire ça », mais de les éclairer sur le choix. Attention, tu vois, dans ce type de comportement, tu vas plutôt dans ce sens-là. Voilà ce qui risque de se passer, ce que ça peut entraîner, tout ça. Notre direction, ça peut être celle-là. Voilà. À toi de choisir. C'est toi qui vois. Voilà. Et Et en fait, j'ai vraiment vu des jeunes qui se débattent avec plein de choses qui sont difficiles pour eux. Des choses où ils aimeraient bien avancer, ils n'y arrivent pas parce qu'ils sont rattrapés par leurs démons, par plein de choses, voilà, tout ça. Mais en fait, cette expérience-là, c'est notre expérience à tous. Moi, c'était ma propre expérience. Je sais bien qu'il y a des choses dans ma vie où j'arrive pas à avancer, je suis dans des impasses et tout ça. Mais c'est exactement la même chose. Voilà. Et donc, c'est cette expérience qu'on est de la même patte humaine, quoi. Et chacun, on essaie d'avancer avec des bonheurs, avec des difficultés. Et c'est ce que j'appelle cette sorte de fraternité. C'est-à-dire, finalement, on est de la même patte, on est ensemble à essayer d'avancer dans la vie, quoi. Voilà. Et ça, c'est promoteur d'un regard d'humanité. C'est un regard, finalement, ce qui pour moi, en tout cas, sous-tend tout ça, c'est l'expérience aussi du regard de Dieu sur moi et sur les hommes, quoi. C'est ce regard d'humanité, d'accueil de chacun tel qu'il est, et tout ça. Mais c'est une manière très concrète de l'éprouver, de le vivre. Donc, on est au sixième principe. Ça va ? Donc, du principe à la conviction intérieure. C'est-à-dire, moi, quand j'ai commencé dans ce métier-là, j'étais plutôt sur le principe, c'est-à-dire de dire, bon, ben voilà, c'est jeune, tout ce que j'ai dit là. Mais en fait, à force de le vivre, ça rentre et ça devient une conviction intérieure. Et ça commence à habiter complètement la manière de faire et la manière d'être. Voilà. Et au fond, pour moi, vraiment, un jeune est un jeune. Voilà. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais ça veut dire... C'est quelque chose qui m'habite très profondément. Et donc, je vois bien maintenant, par rapport à des réactions de rejet que je vois autour de moi, c'est des choses qui me choquent, qui me heurtent très profondément. Voilà, parce que j'ai acquis par l'expérience ce regard sur ces jeunes qui est un regard de bienveillance. Bien sûr, chacun a sa place. Moi, j'étais le directeur de l'école, ils étaient les élèves, on n'est pas copains, mais ce que j'ai dit de la fraternité, ça n'empêche pas du tout. Voilà. Bien sûr aussi avec une lucidité, comme je disais tout à l'heure, c'est-à-dire de savoir être discerné quand à un moment donné on dépasse, il y a trop de violence ou des choses qui ne vont pas, on réagit, on fait ce qu'il faut, bien sûr. Mais c'est une sorte de proximité qui est du fond du cœur. Voilà. Comme je disais tout à l'heure, une manière d'éprouver que nous avons aussi le même père. Voilà. Alors là, septième approche de bienveillance, c'est la valorisation. J'ai pas mal parlé sur des aspects qui font face à des comportements un peu difficiles des jeunes où on se retrouve embuté parce qu'ils cherchent à savoir si vraiment on est dans une relation inconditionnelle avec eux ou pas. Voilà. Et ce qui est très important pour eux. Là, je parlais plus sur une approche, on va dire, positive, c'est-à-dire comment voir et faire voir aux jeunes la valeur qu'ils ont. Voilà. Ça, c'est très, très, très important. Et c'est de la bienveillance. C'est presque la première démarche de bienveillance. C'est de voir le bien qu'il y a dans les personnes. Voilà. Alors, je vais faire appel à un petit exercice de tout à l'heure. Voilà. Vous vous souvenez, pour certains d'entre vous, vous avez pu vous trouver dans des situations de manque de confiance. Voilà. Ça, c'est ce que vivent les jeunes très, très profondément. Le problème, c'est qu'ils ont été pendant des années dans l'école et en échec dans l'école, année sur année sur année sur année. Voilà. Ça, c'est complètement destructeur et les jeunes n'ont plus aucune confiance en eux, quoi. C'est-à-dire qu'ils se sont fait matraquer pour plein de raisons. Et là, je ne rentre surtout pas dans un procès de quiconque, mais c'est la situation. Voilà. Et du coup, ces jeunes-là se trouvent dans cette situation où ils ont une image négative d'eux-mêmes. Ils vont se retrouver démotivés. À quoi bon faire un effort, puisque à chaque fois qu'ils ont fait un petit effort, ça n'a pas été perçu, du coup, il n'y a pas eu d'effet positif, et ça amenait rien, et donc, à quoi bon ? Enfin, voilà, il n'y a plus d'espoir sur ce que eux, leur valeur qu'ils peuvent avoir. Voilà. Parfois, c'est derrière une véritable carapace, quoi. C'est-à-dire, je me souviens des jeunes qui me disent, tiens, lui, c'est un gros dur, futur caïd, attention, enfin, on ouvre les yeux, tout ça, machin. Et puis, en début d'année, quand les jeunes qui arrivent, on leur fait faire une semaine d'intégration avec des jeunes étudiants ingénieurs, tout ça, on les met ensemble, et ils font un truc d'accrobranche. Ben, en fait, le futur caïd, il était au pied de l'arbre, un peu tremblant, et surtout pas à monter là-haut. Et le futur bouc émissaire, lui, il était dans les arbres en train de voltiger, quoi, voilà. Pour dire, face à des apparences qui peuvent être impressionnantes, les jeunes ont un très très grand manque de confiance en eux, quoi. Voilà. Ça pose des problèmes. Je pense par exemple si un jeune, on le prend en période d'essai, on a une petite période d'essai au départ où les jeunes essayent le métier et l'école, c'est très important ça. pour qu'ils puissent faire un vrai choix. Voilà. Et fin de période d'essai, pas du tout concluant. Et mon équipe me dit non, trop de comportements qui vont pas. Si au moment de la période d'essai, le jeune ne fait pas un petit peu preuve de quelque chose, comment on va faire quoi. Et en fait, j'avais décelé ce jeune, et voilà, ce manque de confiance énorme. Et du coup, on s'est dit, eh ben, on va jouer banco. Et alors, on lui dit, bon, on lui fait une deuxième période d'essai. Ah non, 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 parce qu'on le remet dans la même situation. Non, non, on lui dit, t'es pris, c'est bon. Et le jeune, il a changé son comportement complètement. Voilà, il s'est retrouvé en confiance. Ah ben, si on le prend, voilà, c'est qu'il a... Et il a changé. Bon, après, pas toujours été très facile, mais bon, on est arrivé à quelque chose. Voilà, et puis, évidemment, ces jeunes, au moment où on va approcher les examens, évidemment, ça revient, c'est un peu difficile pour certains. Enfin, toujours un peu difficile. Alors en fait, par rapport à ce manque de confiance, ben on va mettre les jeunes dans une situation de travail et vont faire des choses qui ont de la valeur. Le problème d'un jeune qui est en collège, c'est qu'il ne sait pas du tout où il va, quel sens ça a, tout ça. Là, il va fabriquer des pièces pour des avions. Ça, ça a de la valeur. Ça, ça donne une très grande confiance. Le travail, toujours commencer par ce qui va bien. Voilà. Même s'il y a eu un problème, bon, attends, on fait le point et on va pas s'attacher uniquement au problème. Ce problème, c'est un petit problème, mais il y a le reste. Voilà. Une évaluation de l'investissement du jeune. On a double le système d'évaluation, l'évaluation du niveau, mais l'évaluation de l'investissement. Donc, une fois par semaine, un entretien sur 12 critères d'évaluation de comportement, d'investissement dans la formation. Voilà. Jamais rater une occasion. Donc, ça demande une attention continuelle. Quand un jeune s'est investi, de le voir surtout. Voilà. Toujours trouver là où ils sont bons. Voilà. Il y a toujours quelque chose chez un jeune. Je me souviens d'un formateur avec des personnes en grande difficulté. Alors, il était avec une personne, mais alors vraiment, on ne voyait pas. Vraiment, c'est une très très grande difficulté. Et il trouvait toujours plein de petits jeux, des choses comme ça. Et alors, cette personne, le jeu des sept différences là, excellent. Et bien, c'est à partir de ça qu'il a permis à la personne de se remettre debout. Voilà, incroyable. Voilà, et c'est une bonne nouvelle. Ces jeunes, ils ont de la valeur. Voilà. C'est une bonne nouvelle à leur faire vivre, à leur faire expérimenter, à leur faire comprendre. Et c'est une bonne nouvelle pour la société. Voilà. Ces jeunes, ils ont de la valeur. Cérémonie, c'est... Je vais un peu plus vite parce qu'il ne me reste plus beaucoup de temps. Mais cérémonie, c'est de fin de diplôme, par exemple, on va symboliser, on va les mettre voilà, à l'honneur. Quoi, parce que des jeunes qui ont toujours été en fond de classe et en conseil de discipline. Quoi. Alors, huitième approche de bienveillance. Là, je vais être plus rapide. Là, c'est une réflexion sur les jeunes entre eux. Les jeunes sont soumis à la dictature du groupe. Voilà. Ça, c'est un problème. C'est un problème majeur dans la société, dans beaucoup d'écoles. Voilà. Donc, il y a les populaires, il y a les paumés, et il y a une oppression, un harcèlement, enfin, plein de choses qui se passent. Voilà. Et donc, notre responsabilité est de permettre aux jeunes de vivre la bienveillance entre eux. Voilà. Vaste chantier, on n'est pas vraiment arrivé hein, chez nous. On y arrive un petit peu, mais pas beaucoup. Voilà, c'est des jeunes qui sont... Donc là, je fais référence à ce que je vous ai proposé tout à l'heure, c'est-à-dire la peur de se retrouver rejeté du groupe. Ça, c'est une peur qui est très très forte et donc qui va conduire plein de comportements de façon à se situer, surtout pas du côté des paumés, quoi. Voilà. La violence aussi, bon, voilà, c'est des jeunes, pour certains, qui vivent dans un climat de violence. Et donc là aussi, on a une responsabilité de leur permettre de sortir de ce mode de relation, évidemment, entre eux. Et la mixité sociale, ça c'est une chose qu'on essaye de vivre au sein de l'ICAM, puisque l'ICAM propose aussi une formation d'ingénieurs, plusieurs formations d'ingénieurs, et donc de faire vivre des relations. Quand on met ensemble des étudiants avec ingénieurs avec ces jeunes-là, on va leur faire faire l'expérience que finalement... On est tous des jeunes comme les uns comme les autres, quoi. Voilà. Alors, les étudiants, ils découvrent, finalement, c'est pas des voyous. C'est des jeunes qui sont sympas. Voilà. Et les jeunes en question, là, finalement, c'est pas des fils à papa. C'est des jeunes qui sont sympas, quoi. Voilà. Et on sort des images et on arrive à avoir une bienveillance les uns envers les autres. Et c'est très, très important de pouvoir permettre à l'ensemble de ces jeunes de vivre des relations positives, réussies entre eux. C'est très très important. Je pense que pour un certain nombre, on a peut-être eu la chance d'avoir des expériences de vraie camaraderie, et ça c'est très fondateur. Quoi. Voilà, j'en ai fini sur les huit approches finalement de bienveillance. Je veux simplement dire que c'est du bonheur de vivre et d'essayer de vivre cette approche-là de bienveillance vis-à-vis de ces jeunes. C'est du bonheur quand on les voit réussir. Et je dirais, c'est du bonheur, non pas tellement parce qu'on se dit on a contribué, ah machin, finalement je suis utile, tout ça. Non, ce qui est intéressant, c'est qu'on est aux premières loges, on est vraiment aux premières loges de la croissance, de l'épanouissement de jeunes qui, très mal barrés au départ, finalement s'en sortent bien, quoi. Et arrivent à manifester, à vivre leurs valeurs et à contribuer à quelque chose dans la société. Ça, c'est vraiment génial d'en être témoin au jour le jour. Par moments, c'est un peu difficile, mais ça donne beaucoup de bonheur. Alors, je vous propose deux petits textes évangéliques. Le premier, c'est la brebis égarée. Donc, vous connaissez le texte, voilà. Mais je trouve que ce texte représente bien justement cette joie de voir des personnes qui sont au départ dans l'impasse et finalement de les voir s'épanouir et avancer dans la vie. Voilà. Je pense que ça reflète bien de ce que Dieu peut vivre vis-à-vis de tout homme et de chacun d'entre nous. Voilà. Et c'est une bonne nouvelle pour nous à vivre. Alors, ce qui est intéressant, c'est de se poser la question, à votre avis, le texte, quel est votre avis dans cette affaire-là? Il faut aller chercher celle qui est paumée ou pas? Voilà. Eh, c'est pas si évident parce qu'il y en a 99 autres derrière. Hein. Ah. Et l'autre texte que j'aime énormément aussi, c'est le Magnificat, qui exulte, c'est un mot qui est barbare, mais c'est « mon cœur est rempli de joie », c'est ça, l'exulté. On a cette même joie de voir l'inversion de la société. Voilà. La société est inversée, c'est ça que dit ce texte. C'est-à-dire que ceux qui sont les plus marginalisés, qui sont les rejetés, c'est eux finalement qui sont devant et qui sont en premier. Voilà. Ça, c'est extraordinaire. Enfin, moi, je trouve ce texte complètement révolutionnaire.